Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 64. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'aime beaucoup aller au musée, tout particulièrement dans les galeries de peinture. C'est mon truc, j'adore la peinture. Je vais au musée, je vais en galerie quand j'ose passer le pas de la porte. Et puis mon événement préféré à Paris, eh bien c'est la FIAC, qui est tout simplement le regroupement des plus grandes galeries d'art du monde. Bref, j'adore la peinture. Et je me suis demandé eh bien, comment les grands artistes trouvaient l'inspiration. Qu'est-ce qui faisait qu'ils orientaient leur travail de telle ou telle façon? Et surtout, comment se fait-il qu'ils fassent presque toujours partie d'un courant? Le cubisme, l'impressionnisme, le pointillisme, l'expressionnisme, le fauvisme, à chaque époque, son courant. Alors qu'est-ce qui fait que ces artistes qui par définition sont des créatifs se retrouvent dans un même courant? Eh bien selon moi, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de création sans inspiration. Tout ce que l'on invente, c'est le fruit de ce qui nous entoure. En fait, les idées n'apparaissent pas sans raison, elles rebondissent sur ce que l'on voit, ce que l'on entend, sur son environnement et donc, eh bien, sur les idées, sur les créations des autres. Tout ce que l'on fait est inspiré par quelque chose qui existe déjà. C'est vrai dans l'art et c'est vrai en marketing. C'est pour ça que, eh bien, je crois beaucoup au fait de s'inspirer de la concurrence. Alors attention, le sujet est sensible, j'en ai bien conscience, mais je voudrais vous proposer de réfléchir à cette question de façon absolument bienveillante. L'idée n'est évidemment pas d'aller voler le travail des autres. Celles et ceux qui me connaissent savent à quel point ça n'est juste pas compatible avec mes valeurs. Je vous propose tout simplement de vous inspirer de la concurrence comme les artistes s'inspirent d'autres artistes, parce que bien c'est l'univers dans lequel vous évoluez, et c'est en regardant autour de vous que vous inventerez le futur de votre marché. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, comme d'habitude, remercier toutes les personnes qui ont pris 2 minutes pour me laisser un avis 5 étoiles, soit sur iTunes, soit directement sur mon site, lepodcastdumarketing.com/avis. Et aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement remercier Thérapothéca qui écrit « Bonjour Estelle, j'ai découvert votre podcast et je suis fan. Je suis pharmacienne et je suis en train de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et le marketing était un nom barbare et nébuleux dont je ne comprenais que peu de choses. Vous savez parler à un public large dont le cœur de métier est bien loin du vôtre et c'est super. Je vous remercie de l'aide que vous nous apportez dans cette belle aventure que nous construisons. À très vite pour un nouvel épisode. » Alors merci beaucoup Thérapothéca, c'est précisément pour des gens comme vous que j'ai créé le podcast du marketing. En fait, j'ai créé le podcast du marketing en réalisant que, eh bien, il y avait plein de gens qui créaient des entreprises, qui n'étaient pas spécialistes du marketing, enfin qui étaient spécialistes de leur propre métier, mais que leur métier n'était pas le marketing. Sauf que manque de chance, quand on est entrepreneur, eh bien, on a besoin du marketing pour développer son business. Et donc, je me suis dit que j'allais, eh bien, proposer ce podcast pour un peu vulgariser et simplifier, rendre accessible à tous le marketing de façon à ce que tout le monde puisse développer son business. Donc, on est pile dans ce que je recherchais. Merci à vous pour votre témoignage. Bon, mais revenons à notre sujet du jour, s'inspirer de la concurrence. Alors attention, on s'est bien comprise, on parle ici de s'inspirer, je le répète, hein, et bien évidemment pas de copier. Alors qu'est-ce que c'est peut-être d'abord que l'inspiration? Il y a plein de définitions, mais selon moi, l'inspiration, c'est le fait de faire rebondir les idées. En fait, votre cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'une idée en amène une autre, qui elle-même en amène une autre, qui elle-même en amène une autre. En fait, il fonctionne par itération. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez travailler, si vous y pensez, quand vous faites un brainstorming. Hein. Typiquement, quand je parle d'utiliser des post-it, qui est un peu ma technique favorite de génération d'idées, donc le principe de la technique du post-it, il est très simple. Hein. C'est vous prenez un paquet de post-it, vous prenez un feutre, un timer pour timer, mettons, sur 5 minutes. Et puis, sur un thème donné, vous laissez votre cerveau divaguer et vous notez une idée par post-it, sans vous poser de questions, sans vous mettre de frein, sans réfléchir, vraiment presque de façon automatique. Et à quoi ça sert? Eh bien, typiquement, c'est exactement ça. Ça permet à votre cerveau de se libérer et d'utiliser cette fonction de rebond à son plein pouvoir. C'est-à-dire que vous écrivez une première idée qui elle-même va vous faire penser à autre chose, Parfois, ce sont des idées un petit peu loufoques qui vous font penser à d'autres idées qui elles-mêmes vous font penser à une idée qui, elle, est l'idée de génie. Donc vraiment, c'est extrêmement intéressant de travailler comme ça, je trouve, parce que bien, c'est ça, la création, c'est rebondir d'une idée vers l'autre. Bon, mais alors, on parlait bien sûr de différence entre inspiration et copie. Bien évidemment, on ne veut pas copier et ça n'aurait bien évidemment pas de sens. Alors, d'abord, pour un aspect moral, un aspect éthique, je suis persuadée que vous travaillez toutes avec éthique. Ça semble juste évident pour moi que l'on ne cherche pas à créer de tort à qui que ce soit. Ça, c'est évidemment la première chose. Mais si on regardait, même de façon vraiment objective, le fait de copier, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller copier les idées de sa concurrence, qui va aller copier les idées de quelqu'un, ne peut que perdre. Parce que dès lors que vous copiez, vous êtes nécessairement derrière. Vous serez toujours un coup derrière et vous resterez derrière. Donc pour moi, ça n'a aucun sens d'un point de vue business, d'un point de vue éthique, bien sûr, en premier lieu, c'est évident, mais d'un point de vue business même, ça n'aurait aucun sens d'aller copier. Donc bien sûr, on balaye cette idée de copier. En revanche, s'inspirer, analyser son marché, comprendre ce qui fonctionne chez ses concurrents, quelles sont les bonnes pratiques, et puis construire dessus, ça me semble beaucoup plus intéressant. Et pour tout vous dire, je pense que ça fait et ça doit faire totalement partie d'une construction de stratégie marketing. Alors quand on parle de concurrence d'ailleurs, on a souvent tendance à voir ce mot « concurrent » comme l'ennemi. Pour moi, c'est un contresens, encore une fois. S'il y a concurrence, ça veut tout simplement dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Il faut savoir que ne pas avoir de concurrence, c'est-à-dire être le premier sur un marché, c'est très complexe. Cela veut dire devoir éduquer les consommateurs, devoir leur apprendre ce qu'est votre produit ou ce qu'est votre service, pourquoi est-ce que vous êtes le premier ou la première à faire ce que vous faites. Et ça, éduquer, eh bien, ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher en communication. Donc, c'est pas forcément une excellente chose, ou en tout cas, ce n'est pas facile, c'est pas la façon la plus simple d'entrer sur un marché que d'être la première ou le premier. En revanche, si vous avez déjà de la concurrence, eh bien vous avez un marché qui est déjà éduqué, des consommateurs qui comprennent votre produit ou votre service, et ça va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc c'est plutôt un bon point. Et puis si on regarde nos concurrents, encore une fois, on n'est pas obligé de les regarder comme l'ennemi, on peut tout à fait les regarder comme des partenaires potentiels. Alors je sais que le mot partenaire avec concurrent, ça fait souvent un petit peu tiquer. On se dit non mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire qu'elle nous sort. Mais c'est pas juste une jolie idée dont je vous parle là. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument vrai et qu'il faut savoir regarder. En fait, il faut un petit peu changer notre regard sur la concurrence, sur notre environnement. Et puis se dire que, eh bien, on est tous a priori différents. Typiquement, si on n'est pas allé copier notre concurrence, eh bien, on est différent, différente de notre concurrence. Et typiquement, quand on est indépendant, c'est encore plus vrai quand on est indépendant et que donc on est l'image, le visage de notre entreprise, ce qui veut dire que notre personnalité, bien sûr, eh bien, se reflète, influe sur notre marque. On en a parlé avec Anthony Bourbon dans l'épisode de la semaine dernière. Évidemment, notre personnalité, nos valeurs vont venir se distiller au sein de la marque. Donc, on est nécessairement différent de sa concurrence. récurrence. Et en ça, eh bien, ça veut dire que nos clients viennent à nous parce que on est ce qu'on est. Ou viennent à notre marque parce que notre marque est ce qu'elle est. Donc, la concurrence, elle est vraie. On va pas le nier. Mais elle n'est pas, c'est pas une fin en soi. Première chose. Deuxième chose, moi je trouve intéressant de regarder ses concurrents plutôt comme des partenaires, enfin partenaires, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas des gens qui vivent dans le même écosystème que nous. Et le fait qu'ils vivent dans le même écosystème que nous, eh bien ça veut dire qu'ils ont très probablement des points communs avec nous, et notamment les mêmes problématiques que nous. Ils rencontrent les mêmes difficultés peut-être, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes envies, les mêmes contraintes que nous. Et ça, en soi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et dès lors qu'on peut venir à discuter ensemble, à se mettre autour d'une table et discuter de ces problématiques, ça peut nous faire avancer beaucoup, beaucoup plus vite tous ensemble. Donc je trouve extrêmement intéressant, au contraire, moi, de rencontrer mes concurrents, les gens qui travaillent dans le même écosystème que moi et de discuter. J'ai aucun problème à le faire, typiquement quand on parle de podcast, si on prend cet écosystème-là, je suis moi toujours ravie de discuter de podcast avec des gens qui soit voudraient se lancer, soit se sont lancés et se demandent comment faire pour maximiser leur visibilité. Si je peux donner mes trucs, alors je donne peut-être pas tous mes trucs, on va être complètement honnête, mais de façon générale, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'échanger ses vues sur un écosystème. Parce qu'on va aussi apprendre de l'autre. Hein. C'est extrêmement rare que vous soyez la seule personne à donner, ou alors c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est un petit peu déphasé ou pas dans une bonne balance dans la relation. Mais de façon générale, quand vous donnez, les gens donnent en retour. Donc c'est plutôt assez intéressant de le regarder comme ça. Et puis on peut, encore une fois, le voir aussi différemment, c'est-à-dire que très souvent, quand on parle de concurrence et quand on parle d'audience ou de potentiels clients, on va regarder la concurrence comme quelqu'un qui va nous prendre de l'audience. On peut le voir différemment et se dire que très probablement, votre audience, votre cible ou les gens qui vous suivent ne sont pas très exactement les mêmes que ceux de votre concurrence. Il y a probablement une part commune, mais bien souvent, puisque vous êtes différent, ou vous êtes différente, ou votre marque est différente, puisque vous êtes différente, eh bien, une part conséquente, souvent, de votre audience ne correspond pas à l'audience de votre concurrence. Et vous mettre ensemble, ou en tout cas, échanger, même publiquement, hein, pourquoi pas sur de la communication, ça peut être extrêmement intéressant parce que ça va vous faire potentiellement croître votre audience à toutes les deux ou tous les deux. Donc, je pense qu'on peut tout à fait l'envisager dès lors que, bien sûr, on est dans une relation saine et qu'on se fait confiance. Hein. C'est probablement pas la première des choses à faire quand on rencontre l'un ou l'une de ses concurrents ou concurrentes. Mais assez rapidement, je pense que ça peut tout à fait se faire dès lors que, eh bien, on est en bonne relation avec cette personne. Et puis, dernier point, quatrième point qui, pour moi, me fait dire que c'est intéressant d'être en bon terme avec sa concurrence. Alors, c'est peut-être tout particulièrement vrai pour les indépendants. Encore une fois, je sais que je parle beaucoup des indépendants, mais c'est mon cas. Donc, évidemment, je le vis plus simplement. Lorsqu'on est indépendant, et notamment, par exemple, quand on est consultant, c'est très vrai pour les consultants, il arrive parfois que, eh bien, notre emploi du temps soit fluctue. Il y a des moments où on a beaucoup, beaucoup de boulot et des moments où on a un petit peu moins de travail. Les moments où on a beaucoup, beaucoup de boulot, on peut avoir des clients qui viennent nous voir et qui nous demandent, eh bien, de travailler pour eux. Et on ne peut pas, parce qu'on n'a pas la bande passante, on n'a juste pas le temps, on ne peut pas répondre par la positive. Et ça, alors c'est un problème de riche, hein, bien sûr, mais c'est quand même un véritable problème parce que pour votre client, vous lui trouvez pas de solution. C'est-à-dire que votre client, il vient à vous parce qu'il a une problématique, il a besoin de vous maintenant. Et là, vous êtes en train de lui dire, ben non, débrouille-toi, cher client, moi, je suis pas disponible. Ça, pour moi, c'est pas une réponse entendable. C'est-à-dire que mon client vient à moi parce qu'il a confiance en moi et parce qu'il sait que je vais lui proposer une solution. Si ma réponse, c'est non, désolé, je suis occupée, débrouille-toi sans moi, très probablement, vous perdez ce client sur le long terme. Non seulement vous perdez cette mission, mais sur le long terme, il y a de bonnes chances qu'il ne revienne pas, tout simplement parce que bien vous ne l'avez pas soutenu. Que font, en règle générale, les indépendants dans un cas comme celui-là? Eh bien, tout simplement, ils vont aller recommander quelqu'un qui travaille dans le même écosystème qu'eux. et donc un concurrent ou une concurrente tout simplement. Et bien souvent, les indépendants l'ont tout à fait compris et se connaissent et s'apprécient, enfin voilà, connaissent la valeur de chacun et se recommandent, non pas systématiquement, mais se recommandent lorsqu'ils ont un surplus de travail et qu'ils ne peuvent pas fournir. Donc c'est extrêmement intéressant de rencontrer ses concurrents, de discuter, de le faire de façon complètement ouverte, bienveillante et saine, et de ne pas avoir peur de ce mot concurrence qui bien souvent effraie un peu tout le monde. Alors vous l'avez compris, on peut et à mon avis on doit regarder ce que fait la concurrence et les marchés connexes, hein, d'ailleurs ce n'est pas nécessairement que votre concurrence directe, ça peut être des marchés un petit peu plus lointains mais qui ont un certain lien avec vous. On peut les regarder et on peut les regarder à tous les niveaux de son activité, c'est-à-dire par exemple pour son positionnement, pour son offre, son prix, pourquoi pas sa gestion du service client, son système de fidélisation, enfin vraiment tout. C'est tout simplement pour moi une bonne pratique que de savoir ce que font les personnes qui font partie de notre écosystème. Ça semble en fait juste évident de savoir dans quel univers, eh bien, on évolue. Et bien évidemment, à chacun de ces niveaux, votre concurrence peut vous donner des idées pour améliorer votre propre pratique. Mais il y a un domaine pour lequel je trouve qu'il est vraiment extrêmement utile et valorisant de s'inspirer de la concurrence, c'est la création de contenu. Alors si vous suivez un peu ce podcast, vous savez que la création de contenu tient une place particulière dans mon cœur d'indépendante. Donc je me suis dit que ça valait la peine de consacrer un épisode spécifiquement sur ce sujet parce que oui, la création de contenu, eh bien c'est parfois difficile. Oui, on peut manquer d'inspiration. Oui, on a parfois peur de tourner en rond. Et oui, il y a très probablement beaucoup de gens qui ont déjà écrit ou parlé de notre sujet. Alors je vous propose de regarder en détail comment s'inspirer de la concurrence sur 4 points essentiels de la création de contenu. Le premier point, eh bien, c'est le fait tout simplement de trouver des sujets, de trouver des thèmes sur lesquels vous allez pouvoir créer du contenu, des thèmes dont vous allez pouvoir parler. Il arrive très souvent qu'au tout début de notre pratique de création de contenu, on trouve 5, 6, 10 sujets assez facilement. Et puis, dès qu'on a sorti ces 10 sujets, on a un petit peu tendance à tourner en rond et avoir le sentiment que peut-être on a utilisé tous les sujets. En général, c'est pas possible, hein. 10 sujets ne suffisent pas à traiter l'ensemble d'un écosystème, d'un marché, d'un thème. Ou alors, c'est vraiment que vous avez tellement niché que vous avez peut-être un petit peu trop niché. Mais c'est vraiment très, très rare. Qu'est-ce qu'on va faire dans un cas comme ça? Premier réflexe, ça va être de se faire une session de brainstorming. J'invite tout le monde à le faire. Je parlais des post-it tout à l'heure. C'est une technique extrêmement simple et ça permet de trouver très rapidement de nouvelles idées alors que vous avez l'impression d'être déjà coincé. Mais parfois, c'est difficile de commencer cette session de brainstorming. C'est difficile de se mettre le pied à l'étrier et de trouver les premières idées sur lesquelles on va pouvoir rebondir pour trouver ces fameuses autres idées et itérer. Dans ce cas-là, ce que je vous propose de faire, c'est évidemment de vous inspirer de la concurrence et d'aller voir vos concurrents et quels thèmes ils sont en train de travailler, de quel thème ils parlent, que ce soit sur un blog, un podcast, une vidéo, que sais-je, peu importe, de quoi traitent-ils, de quel thème traitent-ils. Alors, c'est pas toujours si évident que ça de faire cette recherche. Vous pouvez les trouver peut-être assez facilement sur les tout derniers thèmes qui ont été abordés. C'est peut-être pas les tout derniers thèmes qui ont été abordés par votre concurrence qui vous intéressent, parce que là, pour le coup, non pas que vous copierez, mais il y aura une certaine peut-être redite. Si votre audience, par exemple, écoute le podcast de votre concurrent, vous avez un podcast, votre concurrent également, et votre concurrent vient de traiter d'un thème, clairement, vous n'avez pas intérêt à vous-même traiter de ce même thème 2 semaines après. Il y aura une forme de redite. Le thème a déjà été traité, est déjà présent dans l'esprit de votre audience. Ça n'est peut-être pas intéressant d'en reparler tout de suite. En revanche, ça peut être extrêmement utile d'aller regarder quels thèmes ont été traités dans le passé par vos différents concurrents. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces différents thèmes. Si c'est un podcast, c'est facile, en général, vous avez l'historique des podcasts. Si cette personne parle sur différents blogs ou autres endroits, ça peut être un petit peu plus difficile parfois de retrouver l'historique, ou en tout cas, si ce n'est pas forcément difficile, ça peut être fastidieux. Moi, je vous donne un petit truc, c'est un outil absolument génial que j'utilise très régulièrement. J'en parle dans mes formations, j'en parle à mes étudiants en master. C'est vraiment extrêmement simple et surtout c'est gratuit. Donc ce serait vraiment trop dommage de s'en priver. C'est un outil qui a été créé par le pape du SEO qui s'appelle Neil Patel, qui est un Américain, et qui a créé un outil qui s'appelle Ubersuggest. Vous le trouverez sur internet, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais avec Ubersuggest, c'est extrêmement simple, vous rentrez l'URL de votre concurrent, le site internet de votre concurrent, et Ubersuggest va vous donner, de façon extrêmement simple, didactique et facile, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du SEO, va vous donner les thèmes qui ont le mieux fonctionné sur ce site. Les articles qui ont été le plus lus, qui ont été le plus plébiscités par l'audience de ce site. Donc ça va en quelques clics, hein. Enfin vraiment on parle de 2 minutes de recherche, vous allez sortir les 10 thèmes qui ont le mieux fonctionné. Donc déjà vous avez 10 idées sur lesquelles démarrer pour non pas nécessairement utiliser ces idées, mais en tout cas démarrer votre brainstorming et pouvoir itérer sur ces idées. Extrêmement simple, extrêmement rapide, extrêmement pratique. Alors toujours dans le SEO, deuxième élément que vous allez pouvoir utiliser pour vous inspirer, mettons que vous avez déjà certains thèmes, vous avez déjà travaillé, et c'est pas ça le sujet. En revanche, vous vous rendez compte que votre visibilité en termes de SEO, donc votre visibilité sur les moteurs de recherche, est peut-être à améliorer. Vous savez pas exactement comment faire, eh bien, encore une fois, vous allez pouvoir vous inspirer très facilement de la concurrence. Comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vous propose une solution très simple. C'est pas moi qui l'ai inventé, encore une fois, c'est Neil Patel qui en parle dans un épisode de podcast d'ailleurs. Et il explique que, eh bien, c'est comme ça que lui fait, et quand vous tapez SEO sur Google, vous tombez sur Neil Patel tout de suite, donc je pense que c'est un bon conseil. On peut le croire sur parole. Comment fait régulièrement Neil Patel? Eh bien, il va taper sur Google le sujet qu'il souhaite traiter. Il va prendre les 10 premiers articles qui sortent, donc a priori les articles les mieux notés par Google. Il va tous les lire, il va tous les analyser et il va créer un article qui va être 2 fois mieux que tous ces articles. Donc, il va créer un article de blog ou autre, enfin en tout cas, écrire un texte qui va être beaucoup plus poussé que tout ce qui a déjà été écrit. Donc bien sûr, il s'inspire de ce qui a été écrit, ça va lui donner des thèmes, ça va lui donner des sous-thèmes, des angles de vue, etc. Mais il va aller creuser chacun des éléments encore plus. Il va écrire un article peut-être plus long, plus fourni, plus poussé, et il va écrire le meilleur des articles qui n'ait jamais été écrit sur le sujet. Donc je sais, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais je trouve la démarche extrêmement intéressante et je trouve que c'est complètement abordable par tout le monde, c'est-à-dire faites votre recherche, prenez les 10 meilleurs articles, lisez-les et essayez de faire mieux que tous ces articles. Vous avez déjà une base puisqu'ils vous ont donné des angles de vue et des thèmes différents, à vous de travailler parce qu'encore une fois, il y a rien sans travail à mon sens, mais à vous de travailler et de faire mieux que ce qui a déjà été proposé. Troisième élément que vous allez rechercher à travailler lorsque vous faites de la création de contenu, et notamment du SEO, ce sont ce qu'on appelle des backlinks. Alors, qu'est-ce que c'est que des backlinks? Eh bien, ce sont des sites qui vont faire un lien vers votre site. En fait, ce sont des sites qui traitent d'un thème et qui considèrent que vous êtes une référence sur ce thème et qui donc vont mettre un lien vers votre site pour aider le lecteur à mieux comprendre. Ça, c'est extrêmement intéressant pour Google. Les pros du SEO s'accordent à dire que les backlinks font partie des critères principaux que Google va regarder. Pourquoi? Eh bien parce que cela veut dire que vous êtes une personne de confiance, ça veut dire que vous vous y connaissez sur votre sujet puisque d'autres personnes vous font confiance. Et le backlink aura d'autant plus de poids que la personne, enfin en tout cas le site qui fait un lien vers votre site est un site qui a du poids sur votre domaine. Je vous donne un exemple. Si vous êtes en politique, par exemple, votre thème, c'est la politique américaine, et que Barack Obama fait un lien vers votre site, on va considérer que Barack Obama, sur le thème de la politique, c'est une personne qui a un certain poids et en qui on peut avoir confiance. Donc, si lui dit que votre site est d'intérêt pour la politique, on peut lui faire confiance. Si en revanche, Barack Obama fait un lien vers votre site et que vous vendez de la lessive, bon, on peut penser que Barack Obama est pas mieux placé que quelqu'un d'autre pour la lessive. Maintenant, comme il a une visibilité très très large, ça vous fera quand même monter un petit peu, mais très sincèrement, c'est pas l'intérêt. Je donne un exemple un peu bête et méchant, bien sûr, vous l'avez compris avec humour, mais c'est pour vous donner une idée du type de lien que vous devez rechercher. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les trouver, ces liens? C'est ça toute la question, hein. Tout l'enjeu, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que des sites viennent à moi directement et mettent un lien vers moi? Je le saurais même peut-être pas, d'ailleurs. Oui, bien sûr, vous pouvez attendre ça, hein. Il y aura très probablement, si vous faites du travail de qualité, des sites qui pointeront vers le vôtre. C'est très bien, mais ça ne va pas suffire. Si vous voulez travailler votre SEO, si vous voulez être visible, vous avez tout intérêt à aller contacter ces sites et leur proposer peut-être de pointer vers vous. Sauf que vous allez me dire comment je fais moi pour trouver des sites qui seraient potentiellement intéressés et qui pourraient avoir un article qui pourrait pointer vers mon site. Eh bien, encore une fois, vous allez aller, en tout cas, je vous invite à aller sur l'outil de Neil Patel, UberSuggest. Je précise, hein, je n'ai pas de lien commercial avec Neil Patel, hein, ni avec UberSuggest ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un outil que j'utilise moi-même et que je trouve vraiment, vraiment super utile et super simple d'utilisation. Donc, vous allez aller sur UberSuggest. Encore une fois, vous allez inscrire l'adresse, l'URL de votre concurrent. Et très simplement, vous verrez, il y a plusieurs catégories, hein, qui vont vous être proposées. Eh bien, vous allez trouver les sites qui ont un lien vers votre concurrent et notamment les meilleurs sites qui ont un lien vers votre concurrent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller regarder ces sites. Vous allez aller regarder sur quel article pointe vers votre concurrent. Très probablement, c'est un article qui traite du thème que vous traitez, que votre concurrent traite. Et vous allez pouvoir bien tout simplement contacter l'auteur de cet article et lui dire très simplement, hein, « J'ai remarqué que vous aviez fait un article sur tel sujet et que pour creuser tel élément, vous pointiez vers le site de un tel. Sachez que de mon côté, j'ai du contenu sur tel point qui n'a pas été abordé. Si vous souhaitez mettre à jour votre article, voici le lien vers lequel vous pouvez pointer. » C'est extrêmement simple. Encore une fois, vous venez pas réellement demander un service à cette personne. Vous venez lui proposer d'améliorer son article, d'améliorer son contenu de façon à mieux servir son audience. Donc, cette personne, si bien sûr votre contenu est suffisamment qualitatif, cette personne aura tout intérêt à rajouter ce lien. Bien sûr, tout le monde ne le fera pas, hein, on va pas se leurrer. Mais si vous avez, mettons, vous envoyez 10 mails et sur 10 mails, vous en avez un à chaque fois qui va rajouter un lien, et qu'en plus de ça, vous avez identifié que ce sont des sites de valeur puisque ce sont les premiers sites qui sont remontés pour vos concurrents, eh bien, ça peut être extrêmement intéressant et pour le SEO et visible très rapidement sur votre visibilité sur Google. Et puis, cinquième domaine dans lequel je vous propose de vous inspirer de votre concurrence, ce sont les réseaux sociaux. Parce que j'imagine qu'on est toutes dans le même cas quand il s'agit des réseaux sociaux. C'est pas toujours simple de trouver des idées, de sujets, d'angles pour alimenter un réseau social quand on doit publier, mettons par exemple une fois par jour, voire plusieurs fois par jour, selon les réseaux que l'on utilise. Alors encore une fois, il existe des moyens d'aller regarder ce que fait la concurrence sur les réseaux sociaux. Si vous devez prendre chaque concurrent, chacun de ses réseaux et aller décortiquer son contenu sur les réseaux sociaux, ça risque d'être effectivement un petit peu long. Vous avez des outils, encore une fois, qui existent et qui peuvent vous aider à le faire en un clic. Je vous en donne deux. Pour les réseaux sociaux, vous avez BuzzSumo et Mention. Ces deux outils fonctionnent un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire que vous allez sur leur site, vous allez rentrer l'adresse de votre concurrent ou le nom de votre concurrent, ça fonctionne par un système de mots-clés, et vous allez avoir une liste des publications qui ont été partagées, le plus partagées, qui ont le plus fait parler sur les réseaux sociaux, ou d'ailleurs pour mention, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais sur les sites internet également. Ce sont des outils extrêmement intéressants. Alors, ils sont payants. De mémoire, ils ont une version gratuite. Je crois que c'est peut-être la première recherche est gratuite ou une recherche par mois. Je me souviens plus, je vous laisserai regarder. Mais effectivement, c'est des outils qui peuvent être intéressants. Si vous êtes un petit peu en panne d'inspiration sur les réseaux sociaux, ça peut vous aider à trouver de l'inspiration. Bon, et puis un petit truc que je fais, c'est tout simple, hein, pour garder l'inspiration. Parce que c'est bien joli d'être inspiré de sa concurrence, mais faut-il encore s'en souvenir ? Et moi, typiquement, je suis très très souvent inspirée en regardant sur Internet ce qui se passe sur Internet, de façon très naturelle, hein, sur mon Facebook, mon Insta, mon LinkedIn, peu importe. Souvent, je me retrouve face à, par exemple, une publicité d'un concurrent, ou de quelqu'un qui est dans mon univers, ou alors un post que je trouve intéressant, ou un thème, un sujet, et sur le moment je me dis « waouh, c'est génial, c'est super intéressant, ça me fait penser à ça, ça, ça », ou c'est quelque chose que j'aime bien, peut-être qu'un jour je voudrais faire quelque chose dans ce goût-là. Si je reste là-dessus, il y a de bonnes chances que dans 10-15 minutes max, j'ai oublié, parce que j'ai fait plein de choses et que j'ai pas une mémoire d'éléphant. Donc ce que je fais systématiquement, et bien souvent c'est directement sur mon téléphone d'ailleurs, mais je le fais également sur mon ordinateur, sur mon PC, mais je le fais surtout sur mon téléphone, c'est que dès que je vois quelque chose qui me plaît, que ce soit une photo, on parlait de photoshoot il y a quelques épisodes, si je vois une photo, une pose, une mise en scène que je trouve sympa, si je vois un post que je trouve bien écrit, si je vois une pub que je trouve bien présentée, eh bien je vais faire un screenshot immédiatement, je me pose pas de questions. Je fais un screenshot immédiatement et je l'enregistre dans juste une note en fait. Hein. Donc moi je suis sur Android, donc il y a l'outil note. Je me souviens plus du nom de l'outil quand on est sur iPhone, mais je suis sûre qu'il y en a un également. Et puis j'enregistre, alors j'en ai plusieurs, hein. Je me suis fait un petit classement, j'ai celui pour les pubs, j'ai celui pour les landing pages, j'ai celui pour les posts, etc. Et j'enregistre systématiquement tout ce qui me plaît dans une note. Et puis, quand je suis en manque d'inspiration ou quand je veux tout simplement retravailler peut-être ma pratique, revoir un petit peu comment je fais mes pubs ou revoir comment je rédige mes posts, quel est mon storytelling, etc. Je reprends cette note. Alors j'ai souvent 15, 20, 30, c'est souvent des notes à rallonge, mais peu importe. Je la reprends et je la repasse. Pas forcément d'ailleurs de façon trop poussée, hein, mais je la relis juste pour me les remettre en tête et me remettre en tête ce qui m'avait plu. Et ça me permet encore une fois de retrouver l'inspiration et de retrouver les éléments qui fonctionnent ou en tout cas qui pour moi me semblent d'intérêt et puis de commencer à travailler dessus. Ça me crée une base pour m'en inspirer. Bon, mais bien sûr, quand on fait ça, encore une fois, la question qui revient systématiquement, c'est où est la frontière entre inspiration et plagiat ? C'est parfois une limite assez ténue. Donc, comment faire pour être sûr qu'on n'est pas en train de plagier ? Eh bien, je pense qu'il faut se poser à chaque fois des questions toutes simples. La première question à se poser, et c'est vraiment une question centrale, c'est de se dire est-ce que j'ai appris de l'autre ou est-ce que j'ai repris de l'autre ? Quand je dis est-ce que j'ai appris, c'est est-ce que j'ai lu par exemple un article et je me suis dit tiens, c'est quelque chose de vraiment intéressant et puis je l'ai laissé de côté, je ne suis pas nécessairement revenue dessus et je suis allée construire mon contenu. Ou est-ce que j'ai repris de l'autre, c'est-à-dire j'ai lu un article, je me suis dit c'est intéressant, j'ai lu l'article, je l'ai fermé. J'ai lu l'article, je l'ai fermé, j'ai commencé mon contenu, j'ai rouvert l'article, je suis retournée dessus, j'ai continué mon contenu, j'ai rouvert l'article, je suis revenue dessus, j'ai continué mon contenu. Là, très probablement, j'ai certainement repris des choses directement de l'article. Pas forcément mot pour mot d'ailleurs, mais je m'en suis trop inspirée, je suis trop proche de l'article. Apprendre, c'est ok, reprendre, moi je suis pas ok. Une autre question, évidemment, qu'il faut toujours se poser, mais je pense que ça paraît évident, c'est est-ce que j'ai utilisé, tout simplement, le contenu, la création de quelqu'un d'autre? Et ça, ça vaut typiquement, par exemple, sur les photos, les vidéos ou le texte. Donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas reprendre directement une photo que vous avez trouvée sur un site internet parce que vous la trouvez belle. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Cette photo est la propriété de quelqu'un. Sans son accord, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ça semble évident, mais je le redis parce que on ne peut pas faire ça. Autre question qui m'a un jour été posée, est-ce qu'on peut retranscrire, par exemple, un podcast qu'on a trouvé intéressant? Est-ce que de le retranscrire, c'est-à-dire de transformer de l'audio en écrit, est-ce que c'est du plagiat? Oui, complètement. C'est pas parce qu'on change de média que ça n'est pas du plagiat. Bien évidemment que de retranscrire de l'audio en écrit, ce serait du plagiat. Donc non, on ne peut pas faire ça. En revanche, on a tout à fait le droit de reformuler, c'est-à-dire d'écouter un épisode de podcast, de dire « waouh, ouais, c'est super intéressant, cette personne parle de telle et telle et telle idée, je vais reformuler ces éléments et en parler à ma façon ». Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller un cran plus loin, parce que si c'est juste reformulé, très sincèrement, c'est pas du plagiat, mais je trouve que ça manque d'intérêt, en fait, tout simplement. Ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est d'ajouter quelque chose, c'est de construire sur ce quelque chose que vous avez écouté, lu ou peu importe, et de rajouter des connaissances, d'apporter vos propres connaissances, votre propre expérience, et probablement peut-être un angle différent, un angle qui vous est personnel. Là, dans ce cas-là, vous êtes dans de l'inspiration et non dans de la copie. Et puis, si vous avez un doute, alors d'abord, entre vous et moi, si vous avez un doute, probablement c'est qu'il y a une part de copie où vous êtes trop proche. Mais si vous avez un doute sur est-ce que j'ai peut-être trop calqué mon texte sur le texte de quelqu'un d'autre, eh bien encore une fois, il y a des outils qui vous permettent de le vérifier. Je vous donnerai le lien, l'URL sur les notes de l'épisode, mais un outil notamment qui s'appelle copyrightly.com et qui vous permet de copier votre texte, d'insérer votre texte dans l'outil, et l'outil va faire une recherche sur internet et vous dire si vous êtes trop proche, à combien de pourcents d'autres textes. C'est très utile parce que parfois, eh bien, on essaye de bien faire, on veut s'écarter d'un texte qu'on a lu et qui nous a inspiré, mais eh bien, c'est comme la musique, hein, vous savez, c'est toujours ce débat qui revient régulièrement. On retrouve quelques notes de musique dans un morceau récent, alors que ce sont des notes de musique qui avaient été utilisées dans un autre morceau et qui font référence à cet autre morceau. La personne s'en est-elle rendue compte consciemment, l'a-t-elle fait consciemment ou pas? C'est toujours difficile de savoir. À l'écrit, ça peut arriver aussi. On peut, de façon très honnête, se dire « mais non, je ne cherche pas à copier ». Et puis inconsciemment, les mots nous reviennent parce qu'on les a lus, parce qu'ils nous ont plu, parce qu'ils nous ont marqué. Et en fait, eh bien, ça a déjà été écrit, mais pas par vous. Donc c'est intéressant, quand on a un doute, d'aller passer son propre texte au crible d'un outil qui va aller vérifier si on n'est pas trop proche d'un texte qui a déjà été écrit. Cet épisode touche à sa fin, alors je vous résume en quelques secondes les éléments pour lesquels je pense qu'il est intéressant de s'inspirer de la concurrence pour la création de contenu tout particulièrement. Encore une fois, moi je pense qu'il est extrêmement intéressant et qu'on devrait tous s'inspirer de sa concurrence pour à peu près toutes les strates de son business, ou en tout cas, si ce n'est s'en inspirer, en tout cas connaître ce que fait la concurrence. Mais pour ce qui est de la création de contenu, moi j'identifie quatre éléments sur lesquels il est vraiment extrêmement intéressant de s'inspirer de la concurrence. Le premier, eh bien, c'est quand on est en panne de sujet et qu'on ne sait plus, eh bien, de quoi parler, sur quoi écrire, quel type de thème aborder. Eh bien, on peut tout à fait aller voir de quoi parlent nos concurrents et ça va nous permettre, eh bien, de débloquer un brainstorming et en tout cas nous mettre le pied à l'étrier sur un brainstorming pour pouvoir après trouver d'autres idées. Dans la même idée, si on veut améliorer son SEO, eh bien, on peut tout à fait faire une recherche Google sur le thème qu'on a choisi et puis prendre les 10 meilleurs articles, les lire, s'en inspirer et surtout essayer de faire un article qui soit bien meilleur que tous ces 10 meilleurs articles. Et là, vous êtes à peu près sûr de faire un bon score en SEO. Troisième élément, eh bien, ce sont les backlinks, ces fameux liens qui mènent vers votre site. Allez voir quels sites pointent vers les sites de vos concurrents et contactez-les, enfin très librement, contactez-les pour leur parler de votre site, de votre contenu, parce que ça peut tout simplement les intéresser. Et puis quatrième élément, eh bien ce serait les réseaux sociaux, parce que oui bien sûr, publier régulièrement sur les réseaux sociaux c'est nécessaire, c'est un petit peu dur parfois de trouver l'inspiration, surtout quand on doit publier tous les jours, voire plusieurs fois par jour, donc eh bien inspirez-vous de ce que font vos concurrents pour pouvoir trouver des thèmes. Alors j'espère que cet épisode vous aura réconcilié avec le fait de vous inspirer de votre concurrence, que vous n'aurez pas l'impression d'être un plagieur invétéré en allant regarder ce que font vos concurrents. Moi je pense sincèrement que si c'est fait avec éthique et si c'est fait bien sûr dans un esprit positif et loyal, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, c'est une pratique qui est tout à fait nécessaire et qui fait partie de la bonne connaissance tout simplement de votre écosystème. Et puis encore une fois, je le répète, concurrence, c'est pas un gros mot et on a le droit d'être en bons termes et de discuter et d'échanger avec ses concurrents. Moi, je pense que ça peut créer de la valeur des deux côtés. Cet épisode touche à sa fin. S'il vous a plu, si vous aimez le podcast du marketing, eh bien, je le dis à chaque épisode, mais je le répète, c'est tellement important. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast toutes les semaines, eh bien, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Et puis, si vous n'avez pas iTunes, eh bien, vous pouvez aller directement sur mon site, lepodcastdumarketing.com/avis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez qu'on reste en contact, le plus simple, c'est de me rejoindre sur mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.